Vous écoutez France Musique.
Regi invicti e accorti, or chiaro parmi che tutta Italia dominar volete, poiché quella che in mezzo a voi tenete vince con gli occhi più che noi con l'armi. La spesa e la fatica or si risparmi di macchine fatal che conducete, che dove volge lei sue luci liete romperà il ciel nonché ripari e marmi.
La peinture éveille une harmonie de rapport qui satisfait le sens de Louis au point de laisser les auditeurs dans une extase d'admiration. Plus puissante est encore la beauté des rapports d'un visage angélique dans un tableau, car ses proportions produisent un accord harmonieux qui atteint l'œil en un seul moment, comme la musique fait pour l'oreille. Léonard de Vinci, fin 15e siècle, bienvenue dans Le Matin des Musiciens, aujourd'hui, Lucrezia Borgia.
Ce fut un jour de grande liesse.
Dans 20 ans, on reparlera du souper de Borgia Lucrèce dans le palais du pape son papa. Nous rentrions dans nos familles quand de César le messager nous donna de façon gentille cette invitation cartonnée. Venez donc souper chez le pape, on s'amusera, dansera, et durant de folles agapes, on s'empoisonnera.
J'avais mis ma belle cotte de maille que ma femme avec dévotion,
nuit et jour avec une tenaille tricota au poids d'Alençon.
Tout en sirotant des cocktails, on tenait des propos et cria. Dans ce machin à la groseille,
je parie qu'on a mis du cura.
Dans un coin près d'une antichambre, Borgia dormait comme un brave homme.
On lui crie tonton Alexandre,
alors on s'empoisonne. Enfin commence la dînette.
À la fois marionnette politique à la solde d'un père et d'un frère calculateur, femme aimée et aimante, convoitée, mère 11 fois, femme de lettres, protectrice des arts, l'œil et l'oreille est de Lucrezia Borgia, mais surtout une histoire personnelle qui ont illuminé la vie artistique italienne à une époque charnière. Lucrezia Borgia est donc strictement contemporaine du peintre Raphaël. Sa vie, sa trajectoire, son passage sur Terre couvrent un autre passage, celui du dernier haut Moyen-Âge, époque extraordinaire que celle des 20 dernières années du 15e siècle, jusqu'aux 20 premières années de cette renaissance italienne nouvelle humaniste, 1480-1520, plusieurs Italies en une seule, une curie romaine gouvernée par une génération de papes espagnols, et une histoire, celle de la famille Borgia, digne des plus grandes séries télévisées. Un père qui est un pape, un frère qui est un assassin incontrôlable, avide de pouvoir et au milieu, Lucrezia. Le sujet est passionnant, réellement, vous saurez tout donc en musique sur l'histoire très personnelle cette fois-ci de Lucrezia grâce à vous, Patrizia Bovi.
Bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Alors on verra que Lucrezia est la fille de sa famille, la fille de plusieurs couronnes, de plusieurs royaumes, entre Ferrare, Rome, Naples, etc. Vous, vous êtes originaire de quel coin en Italie ?
Moi, je suis d'Assise.
D'Assise. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?
Bon, plein de choses. Hein, c'est mieux de ne pas commencer à parler des rivalités au Moyen-Âge, parce qu'il y en avait beaucoup.
Alors, on va en parler, bien sûr, avec vous. Et vraiment, le sujet est passionnant. Je vous remercie, en tout cas, de nous l'avoir proposé. Vous êtes venue, Patrizia, pour ce nouvel ensemble qui s'appelle Medusa.
Oui.
Pourquoi Medusa ?
Medusa parce que c'est né avec l'idée de, exactement de raconter l'histoire de Lucrezia Borgia. Donc Medusa, comme Lucrezia, d'une certaine manière, était une fille très belle qui était à un certain moment transformée par un monstre pour une question de jalousie ou de jalousie entre les déesses. Un peu la même chose, ça s'est passé avec Lucrezia, qui a été transformée comme un monstre par les historiens.
Mmh. Et par la télévision aussi, on parlait de la série. Pour les auditeurs qui la connaîtraient, c'est un autre visage plus réaliste peut-être de Lucrezia qu'on va voir avec vous.
Oui, je pense oui, parce que nous nous sommes inspirés par la biographie plus récente et les recherches historiques plus récentes qui ont apporté une autre lumière sur cette femme. Et moi, je suis totalement tombée amoureuse d'elle après avoir lu les lettres d'amour qu'elle s'est échangées avec Pietro Bembo.
Ouais, sublime. Ouais. Alors, Patricia Bovi, merci d'être là. Vous êtes venue donc avec Léa Stuthart. Bonjour.
Bonjour à vous.
Qu'est-ce que vous allez jouer, Léa, comme instrument ? C'est juste devant moi.
Je vais jouer la harpe gothique.
Avec des petits harpillons. Oui. Ça va faire zzzz comme
oui,
ça.
Oui, c'est vrai.
Alors, vous nous en parlerez, Léa. Bien à côté sûr. De vous, il y a Crawford Young. Bonjour, Crawford.
Bonjour.
Hello. Merci d'être là. Luth et un autre instrument que vous tenez entre les mains, c'est la...
Viola da mano.
Viola da mano. Alors, on en parlera évidemment avec vous. Et tout à droite, il y a au psalterion, Gabriele Miracle. Bonjour, Gabriele.
Bonjour.
Merci à vous. Alors, vous avez sorti un disque récemment, consacré donc à Lucrezia Borgia. Et alors, ce que vous avez fait, Patricia, c'est que vous êtes revenue donc à une vision un petit peu plus personnelle de Lucrezia, dans cet écrin de grande polyphonie franco-flamande, cérémonielle, qui a aussi été enregistrée par Jordi Savall. Mais du coup, vous, c'est plus l'univers de la poésie accompagnée par un instrument ou par des instruments que vous avez décidé de visiter. Univers un petit peu plus intime, univers de la poésie pétrarchisante.
Aussi, oui, bien
sûr. Et donc, vous avez demandé à une auteure d'aujourd'hui d'écrire des octaves. Qu'est-ce que c'est qu'une octave, en deux mots ?
Alors, j'ai demandé à Valeria Molini, qui est une écrivaine italienne, d'écrire dans un style plutôt ariostesco ou inspiré par Serafino Aquilano, qui était un grand poète de l'époque, de synthétiser en... sept octaves.
Donc huit vers.
Huit vers de 11 syllabes chaque vers. La vie de Lucrèce. Pour encadrer donc les différents moments de sa vie. Et je vais le chanter selon la technique qui était la technique plus répandue à l'époque des cantari. Ça veut dire de chanter la poésie en improvisant ou un texte ou la musique ou les deux. Alors là, dans ce cas-là, on a improvisé, entre guillemets, parce qu'on a fait écrire les octaves pour raconter sa vie, sur une mélodie déjà existante, qui est la mélodie per cantare le ottave di Benedetto di Cariteo, qui était un grand poète improvisateur.
Qui était-il, donc un poète ?
C'était un poète improvisateur qui était actif à la cour de Naples.
D'accord.
Et comme Serafino Aquilano, comme Antonio di Guido, qui était de grands poètes improvisateurs et qui chantait, il s'accompagnait au luth, à la lira da braccio ou à la viola da mano, il improvisait soit la poésie, soit la mélodie, soit la mélodie était donnée et donc il improvisait que la poésie, etc. Donc c'était vraiment une technique très répandue, mais complètement de tradition orale. Donc, on n'a pas reçu beaucoup de cette pratique, mais qui était considérée une grande art.
Très, très humaniste. On a considéré, comme on en parlera justement, que les frottoles étaient d'essence essentiellement populaire. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est aussi un langage de noble, d'aristocrate.
C'était absolument un langage d'aristocrate. Après, c'est resté dans la tradition orale. Mais avant tout, c'était Pétrarque qui déjà commence à parler de ça. Et qu'il déjà accompagnait ses poèmes à Lembum, avec le luth.
Alors, donc, Leonardo da Vinci, on verra, pour ceux qui le connaissent, était aussi un grand improvisateur. Alors, Patricia, je vous laisse vous installer en studio et on vous écoute dans cette première ottava. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette première ottava ?
Elle raconte, exactement, c'est le prologue. Elle dit « Puisse les muses me donner la voix et le cœur pour raconter l'histoire de cette dame de valeur et de noblesse. »
Patricia Bovi dans le studio 118.
Possa le muse darmi voce e core, sì chi possa cantar di quella dama. Fulgida per beltà e per valore, figlia di papa e di virtù. Trista gelosia fe gran rumore e della sua ruina bella brama possa il mio canto risuonar sì forte come felice sorge a nuova sorte.
Voilà, c'est très court pour ouvrir ce matin des musiciens. Poisson les mousses, et c'est une octave donc de cet auteur à qui vous avez demandé de rédiger en cinq points, en cinq octaves, la vie de Lucrezia Borgia. Nous vous écoutions, Patricia Bovi, ici dans le studio 118. Alors, en quelques mots, vous nous avez dit, Lucrezia Borgia voyage beaucoup. Elle est le jeu des alliances voulues par son père et son frère. Alors, en gros, quelle est son histoire au tout début?
Bon, elle est née en 1480, à côté de Rome, et par fille naturelle de Vannozza Cattanei
et d'Alessandro, le futur pape.
Il n'était pas encore pape à l'époque, mais il est devenu après. Et sœur de Cesare Valentino, Cesare Borgia, qui était un des hommes plus difficiles, sanguinaires de l'époque. Et elle a été immédiatement promise à mariage très jeune. Et après, la famille a décidé de changer d'avis et ils l'ont promise à nouveau à Giovanni da Pesaro. Et Giovanni da Pesaro a été effectivement son premier mariage. Ils étaient très, très, très jeunes. Il avait 14 ans.
Donc 1493, je crois qu'elle a 13 ans, c'est ça? À peu près
13,
14 ans.
Exactement. Et à ce moment-là, le mariage se fait. Mais à un certain moment, sa famille décide que c'est plus convenable pour ses alliances politiques. Et donc, il cherche de faire annuler le mariage. Et il arrive à le faire.
Ils y arrivent.
Vu qu'ils n'ont pas eu encore d'enfant, elle était très très jeune, mais il prend comme prétexte le fait que lui, il était impuissant. Ça, c'est une chose.
Et c'est la base de toute l'histoire, hein, parce qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Ce Giovanni da Pesaro da Sforza a répondu donc.
Alors.
Des rumeurs.
Il a dû accepter, même si c'était pas vrai probablement cette histoire, mais il a dû accepter parce que les pressions du roi de France et aussi de la famille, de sa famille de Milan, de les Sforza di Milano, ils l'ont obligé à ne pas rentrer en conflit avec le pape. Et finalement, il doit accepter l'annulation du mariage, mais après il va se venger de ça. Il va commencer à dire plein de médisances.
Si on enlève ma femme, c'est que le pape souhaite avoir la liberté de jouir lui-même de sa fille.
Oui, et même le frère qu'il pouvait avoir de relations sexuelles avec Lucrezia. Ça, on ne sait pas, bien sûr. Mais on ne sait pas si elle a été abusée à certains moments de sa vie. Tout est possible. Mais c'est sûr qu'elle n'était pas une femme qui avait, à ce moment-là, une volonté d'être comme ça. Vous voyez, elle était très, très, très jeune. Et à un certain moment, pendant qu'elle attendait l'annulation du mariage, elle a été envoyée dans un couvent à côté de Rome. Et son père lui a envoyé un jeune tous les jours pour lui.
Assez joli,
qui s'appelait Perrotto, et c'était un diacre.
Et ça, on est sûr de ça, Patrice?
Si, ça, c'est dans la biographie. Et dans cette amitié qui se développe, parce que bien sûr, ils étaient tous les deux très, très jeunes, il y a quelque chose qui se passe. Et Lucrèce, elle reste enceinte. À ce moment-là, la famille découvre ça. Ce n'était pas difficile. Et le résultat, c'est que la famille fait tuer Perrotto.
Juste après qu'elle ait accouché. Voilà.
Ouais. Il prend l'enfant, il le donne à quelqu'un d'autre pour l'élever. Et puis, quelques années après, Alessandro VI, il va reconnaître ce fils comme son fils.
Comme son fils.
Mais bon, ce n'était pas du tout ça.
Alors, 1493, donc, je reviens sur cette année importante, parce que juste avant, il y a 1492, j'apprends rien à personne. 1492, dans l'histoire occidentale, c'est une date très importante. Laurent de Médicis à Florence meurt. CF, on se reporte au motet sublime de Isaac, Quis d'habit aux coulisses, absolument génial. Christophe Colomb, de ce côté, lui, pose ses amarres du côté des Bahamas. Piero della Francesca meurt le même jour que le jour où Christophe Colomb arrive là-bas, le 12 octobre 1492. Mais c'est surtout, en fait, la prise de Grenade par les armées d'un couple diabolique aussi à sa manière, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, expulsion des Juifs, conquête du royaume musulman. Mais c'est aussi l'année du couronnement d'Alexandre
VI. Bien sûr.
Donc le papa de Lucrezia Borgia. Et il y a un motet qui s'appelle « Salve Regis Mater Sanctissima » qui aurait été composé pour la session au Saint-Siège d'Alexandre VI, donc cette même année, et qui est en fait intéressant parce qu'il s'adresse à la Vierge Marie en lui disant « Prends pitié de nos âmes, sers-toi d'Alexandre VI, de ce nouveau pape. Comme sacristain céleste, nous reconnaissons l'heureux protégé de la Vierge qui a l'heureuse investiture de la curie, qu'il finisse sa vie avec ton aide, car celui-là, Alexandre VI, Ô joyau parmi les vierges, il est digne d'honneur. Alléluia. La Capella Real de Catalunya et l'Espérion 20 de Jordi Savall dans ce motet Salve Regis Mater Sanctissima à la toute fin puisqu'il dure 9 minutes pour l'accession au Saint-Siège d'Alexandre VI en 1492. Patricia Bovy, 1492, donc vous allez nous interpréter. Qu'est-ce que c'est, une frottole du coup?
C'est une chanson de Juan de Lencina.
Donc compositeur espagnol.
Absolument, parce que Lucrezia, elle était éduquée à la musique espagnole quand elle était à Rome, bien sûr. Son père, il était espagnol, donc... tout à fait logique. Et le morceau qu'on va jouer, c'est Levanta Pasquale, qui c'est un morceau qui exactement parle de la prise de Grenade, de la fête qui a été faite pour la prise de Grenade, finalement, qui a été libérée par le roi catholique de Maure.
Et donc des grandes fêtes à Rome. Ça, on a des témoignages beaucoup à l'époque.
Ouais.
Alors, on vous écoute, l'ensemble Médouze avec vous, Patricia Bovy, dans ce Levanta Pasquale, dans le studio 118. C'est à vous.
Levanta, Pascual, levanta, abbaiamos a Granada, che se suena testomada. Levanta, toste priado, toma tu perro e surron, tu samarre, samarron, tu salvogues y callado. Vamos, thank you.
L'Eventa Pasquale est pour la chute de Grenade fêtée à Rome en 1492, interprétée par vous, l'ensemble Médusa. Patricia Bovi avec Léa Stuttart à la harpe, Crawford Young au luth et Gabriele Miracle aux percussions. Un grand merci à vous quatre. Alors, je me tourne vers vous, Patricia, puis après vers Crawford, parce que Crawford a un instrument un petit peu particulier qui s'appelle la viola da mano. Et qu'on retrouve dans l'iconographie, notamment, c'est
à
pas
Rome.
La chapelle Sixtine, mais à Rome.
À Rome, dans le Stanze Vaticane, ça veut dire dans le palais du Vatican, il y a une partie de gli appartamenti Borgia, mm-hmm. les appartements
de la famille Borgia.
De la famille Borgia, oui, oui, c'était ce qui a fait faire Alessandro, peint par Pinturicchio.
Pinturicchio, bien sûr. Ouais.
Et on a deux instruments représentés dans le Stanze Borgia, une viola da mano, exactement celle-là. Le modèle a été reconstruit par un luthier italien, c'est Luca Piccioni. Et il y a une petite harpe toujours gothique qui est représentée. Bon, moi, j'aime penser à l'idée que Lucrezia, on sait qu'elle s'était mise à la harpe quand elle était petite. Oui, donc ça pourrait être un instrument qui était connecté.
Et c'est surtout l'influence espagnole. Hein, je veux dire, viola da mano, on a vraiment qui arrive, je crois, par le royaume de Naples et puis qui arrive à Rome. Alors, Crawford Young, vous avez l'instrument entre les mains. Concrètement, combien de cordes et comment cela se joue-t-il? Est-ce que ça se joue avec les doigts ou avec le plectre, le médiator?
I play with the plectrum.
Avec le plectre.
And it has the six strings.
Six cordes, six doubles cordes, des chœurs.
It's very much a Spanish equivalent of what the lute was in Italy.
C'est l'équivalent espagnol du luth en Italie, en fait.
That is a clear fashion or mode for the Borgia family to prefer to have the sound of the viola da mano.
C'est une mode pour les Borgia, oui.
Or vihuela, as it would have been called in Spain, rather than the lute. So this is something which is an import into Italy at the time.
C'est un import, une importation de l'Espagne justement en Italie. Alors, c'est un instrument, j'imagine, Crawford, Patricia, qui sert à accompagner tout simplement la poésie chantée à la cour. Ça pouvait se jouer avec une viola da mano et basta.
Parce que le personnage qui est sur les fresques à la Stanze Borgia, qui tient l'instrument, est probablement Serafino Aquilano. Donc, un des grands poètes italiens, improvisateur.
Et qui aurait servi à la cour de Lucrezia.
Qui était à Rome à cette époque-là.
Ah, qui était à Rome.
Qui était à Rome. Et donc, on imagine que lui, il s'accompagnait avec la viola da mano, aussi pour chanter ses poésies.
Et nous avons des lettres d'un luthiste allemand qui servirait la cour des Borgia et qui envoie à un de ses copains, qui est aussi luthiste, mais en Allemagne, des lettres témoignant de cette pratique-là, Crawford.
This is a letter by someone named Behaim, Lorenz Behaim.
Lorenz Behaim.
1506, who was in the service of the Borgia family in the 1490s in Rome and left apparently at the death of Papa Borgia to go back to Germany.
C'est parti à la mort de Alexandre VI.
Took some lute pieces with him, including a piece by the very famous Gian Maria Alemanni.
Il avait une pièce d'Allemagne. Ouais.
A bassa danza that he described to his friend as una cosa troppo forte perché è doppio.
Alors qu'il décrit dans une lettre comme quelque chose de trop fort
parce qu'il est double.
Alors c'est très ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire, Crawford?
I believe that the doppio, the double reference here, is to a particular melody that is the basis of this composition. This is a bassa danza. I can play a few bars of it.
Vous pensez, Crawford, que c'était très double, ça veut dire très difficile.
Oui.
Voilà, et la mélodie, ça donne ça, donc.
Thank you. this.
Voilà, c'est quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Clofford Young. C'est vrai qu'on pourrait se poser beaucoup de questions. Ce n'est pas forcément le sujet, parce qu'on va parler de Lucrezia. Mais comment un luthiste allemand arrive, parce qu'un espagnol, on peut comprendre, mais comment arrive-t-il à la cour des Borgia à Rome? Ça, c'est une vraie question.
Ah, parce que ce monsieur, il était un alchimiste.
Il était alchimiste et donc...
Alchimiste. Et donc, il avait probablement travaillé pour la famille Borgia sur de choses liées au poison.
Ah, donc c'est lui qui servait les potions qu'utilisait Cesare pour empoisonner tous les maris de Lucrezia,
c'est ça? C'est vrai qu'il était aussi assez expert à propos de défense des châteaux, je dis bien, non?
Oui.
Bon. Parce qu'il avait écrit quelque chose pour Cesare Valentino à propos de comment défendre les châteaux. Donc, c'était aussi un stratège, comment dire.
Stratège.
Stratège pour...
Mais alors, du coup, Patrizia Bovi, cette figure de Cesare, donc le frère de Lucrezia, absolument terrible, on va la voir au travers d'un motet, bah oui, d'un motet de Josquin des Prés, Absalon, Fili, Mi, qui aurait été composé en hommage à l'autre frère, le frère aîné, Giovanni Borgia, Juan.
Juan de Gandia.
Borgia, fils aîné donc d'Alessandro VI, et donc frère de Cesare et de Lucrezia. Et qui, alors l'histoire raconte, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que ce Juan Borgia aurait été empoisonné ou tué tout simplement avec un petit coup de couteau par Cesare.
Oui, ça c'est pas prouvé vraiment. La chose qui est très forte dans les chroniques, c'est que le pape était absolument désespéré après la mort.
Du coup, Cesare devient l'héritier de la famille des Borgia,
ouais,
à
mais
la place
lui,
de son frère.
Et avant, Juan de Borgia, c'était vraiment le fils aimé, mais vraiment aimé de Alexandre.
Et donc c'est une déploration, Absalon, mon fils, qui me donnerait de mourir à ta place. Mon fils Absalon, puissais-je ne pas te survivre plus longtemps, mais descendre et pleurer en enfer.
Absalom.
sublime motet de Josquin des Prés ou de Pierre de la Rue, on ne sait pas trop. Absalon Philimi, Absalon mon fils, j'ai envie de mourir à ta place, j'aimerais bien te rejoindre en enfer. Et ça change tout d'imaginer que ce motet interprété ici par l'ensemble Iliard, ce serait la voix d'Alexandre VI, du père qui vient de perdre son fils adoré, vous nous le disiez, Patricia Bovy.
Absolument adoré, oui.
Et tué, en plus, on ne sait pas s'il le sait, par son frère,
oui.
Par Cesare.
Oui. La chose intéressante à dire, c'est qu'à l'époque du couronnement du pape Borgia à Rome, Josquin, probablement, il était un des chanteurs de la chapelle.
Dans la chapelle papale.
Oui.
Et ça, on le sait, c'est vraiment les années où il y était.
Oui.
Et il côtoyait pas mal de chanteurs aussi espagnols, parce que Borgia avait fait venir pas mal de chanteurs espagnols. Alors, ce qui est aussi intéressant, Patricia, c'est qu'on retrouve
ce thème de la mort de Juan de Gandia dans une tradition orale, dans un morceau de tradition orale, de la tradition séfarade. Et c'est intéressant parce que c'était l'époque de 1492,
l'expulsion des Juifs.
Et des musulmans, les Juifs sont partis partout en Europe. Et on retrouve encore dans la mémoire quelque chose qui est lié à l'histoire de Borgia. Donc ça, c'était très intéressant. Et là, il y a un enregistrement qui a été fait par une musicologue israélienne qui s'appelle Shahak, qui a fait une récolte de ça. Et j'ai trouvé ce morceau que je trouve absolument étonnant, chanté par une femme. C'est un enregistrement de début des années 60, Mazariva.
Mazariva, Mazariva. En la ciudad de Silivria había pescadores pescando sus proverías. Vieron venir tres en caballo haciendo gran polvería. Vinieron cerca del río, a la mar lo echarían. Hecho ganchos y gancheras por ver lo que les salía. Le salió un duque de oro y yo del rey parecía. Si se lo traían vivo, hombres grandes los haría. Si se lo traía muerto, sus presentes les daría. Camisa de Holanda lleva, cabezón de sirma y perla, anillo lleva en el dedo. Siempre ves ricos así.
Romance séfarade en ladino, absolument bouleversante du début des années 60 sur la mort. Ça qui est absolument incroyable, Patricia Bovy. Je suis très content que vous nous fassiez découvrir cela. Sur la mort de Juan Borgia.
Oui,
et ça... imaginez cette histoire. Comment
alors,
cela...
cette femme chante du fait qu'on retrouve sous la côte de la mer de Silivria un corps d'un homme très bien habillé. Alors, on sait que Juan de Gandia, il a été retrouvé dans le Tibre, par contre, par des pêcheurs. Mais le fait, la transposition, c'est assez... Tu vois, la mémoire, probablement, ça s'est perdu. Mais les textes disent l'homme était habillé bien, il avait une belle chemise, il avait des anneaux, etc. Si on le retrouve vivant, on aura une récompense. On est sûr que d'avoir une récompense. Mais si on le retrouve mort, il n'y a rien à faire. Donc, dans ce texte, vraiment, ils reconnaissent qu'il y avait un noble homme qui a été tué.
Juan Borgia meurt en 1498. 1498, c'est aussi l'année du deuxième mariage de Lucrezia Borgia. Alors,
absolument.
Avec qui?
Alors, elle se marie, selon la volonté de son père, de son frère, avec Alfonso d'Aragona. Et Alfonso d'Aragona, à l'époque, il avait 18 ans, comme elle. Et ils étaient jeunes et beaux. Et finalement, même si c'était un mariage organisé, il tombe amoureux. Elle tombe amoureuse de lui et lui d'elle. Et finalement, c'est une union heureuse. Et il y a un bébé qui arrive aussi. Mais en 1500, Cesare, il décide que n'est plus le temps pour ce mariage. Il veut qu'elle soit libre pour l'utiliser pour de nouvelles alliances.
Alors, entre parenthèses, Patricia, pourquoi ce jeu des alliances? C'est pour fortifier le royaume d'Italie centrale, en gros,
oui,
autour du royaume de Rome, mais en débordant sur Ferrare, etc., Naples,
Pesaro, etc. Donc voilà, il y avait toute une série d'alliances qui s'échangent chaque deux années.
Et Lucrezia a été la marionnette de ces jeux d'alliances.
Absolument. Et ça, elle était heureuse avec cet homme, très contente avec le bébé, etc. Tout se passait bien, mais finalement, ils étaient à Rome. Il y a un premier attentat. Cesare l'envoie quelqu'un pour le chercher de les tuer, mais il arrive à se sauver. Et un mois d'après, il est réussi.
Il a tué donc le mari.
Oui, absolument. Et donc, Lucrezia, elle est désespérée. Elle se réfugie à Nepi pour faire son deuil avec le petit.
Alors, vous avez donc chanté quelque chose qui a un rapport direct, presque, avec cela. C'est Non è tempo di tenere, donc encore une frottole. On parlera justement de cette forme de la frottole un petit peu plus tard. Mais alors, de quelqu'un qui s'appelle Niccolò da Padova.
Oui, que c'était un musicien qui était à sa cour.
Qui est resté le plus longtemps, qui l'a suivi
absolument.
Partout, en fait.
Qui est parti de Rome avec elle, quand elle est partie pour son dernier mariage à Ferrara, et qui l'a suivi pendant 11 années. Elle était avec elle. Mais là, c'était plutôt un texte joyeux qui parle « Je ne veux plus tenir la flamme de mon amour cachée parce que finalement, je peux l'exprimer. » Donc, c'était pour fêter ce moment heureuse de sa vie,
de sa
vie de femme.
Alors, Patricia, on vous écoute donc dans cette frottole de Niccolò da Padova, « Non è tempo di tenere » avec Crawford Young au luth. Non è tempo di tenere de Niccolò da Padova, fin 15e siècle, ce musicien qui a suivi fidèlement, le seul d'ailleurs à l'avoir suivi partout dans tous ses royaumes avec ses mariages successifs, Lucrezia Borgia, interprété par vous, Patricia Bovi à la voix, avec Crawford Young au luth. Un grand merci à vous deux. Alors, on parlait justement de la mort de Juan Borgia et aussi de cette forme qui est très répandue à l'époque et qui a été un petit peu oubliée, noyée dans ce flot polyphonique des ultramontani, des franco-flamands. C'est la forme de la frottole, du cantar à la viola ou au luth. Et alors, c'est quoi la frottole? C'est quoi l'étymologie de la frottole?
Parce que... Ah bon, frottola, ça vient de barzelletta. C'est comment dire, raconter quelque chose de très important.
Avec humour, avec légèreté.
Oui, oui, c'était ça. Mais la première forme de frottola, c'est de barzellette. Donc, c'est un texte qui n'a pas beaucoup d'importance. Mais dans la frottola, on trouve beaucoup de différents genres, de différentes formes. Donc, ce n'est pas seulement de barzellette, mais ça devient de... odi, de chansons, canzone, de strambotti. Et donc, selon la métrique du vers, donc de la poésie, ça change de forme, d'une certaine manière. Il n'y a pas une forme fixe. Et donc, il y a de frottole qui sont écrites comme dans la forme de la barzelletta. Donc, c'est comme une ancienne ballade avec reprise, strophe, deux strophes et puis reprise. Ou puis il y a l'ode qui est écrite dans terzine. En tercet, oui. C'est la même forme poétique qu'a utilisée Dante pour écrire la Divina Commedia. Ou la canzone, c'est une forme encore un peu plus développée, poétique, qui demande au compositeur d'aller un peu plus au-delà d'une forme
fixe. Voilà, donc différents niveaux de raffinement et d'hermétisme aussi, hein, j'imagine. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'on sait? Parce que moi, je pense notamment à un disque de Dulce Mémoire où Denis Rezendade, justement, dit, on le sait, que Leonardo da Vinci jouait très bien de la lira da braccio, que des peintres comme Giorgione jouaient du luth, que Bramante, par exemple, récitait des poèmes en s'accompagnant avec la lira da braccio. Est-ce que, justement, ces frottoles étaient interprétées un peu comme des bardes yougoslaves par les personnes qui les chantaient, avec un instrument
aussi,
qui les accompagnait?
Il y avait aussi une grande liberté dans l'interprétation de la frottola.
Et l'improvisation.
Ouais. Parce que c'était des formes qu'on retrouve. On a 11 livres de Petrucci où il y a beaucoup, beaucoup de cette frottola qui se ressemble beaucoup. Donc, on n'imagine pas que c'était une chose fixe comme ça, comme il est resté. Donc, il y avait chaque musicien et chaque chanteur et chaque interprète, il le faisait un peu propre. Donc,
et Lucrezia Borgia se délectait
avec ça.
Et donc, des musiciens.
Et cette idée aussi d'avoir une vision plus intime de sa cour, il était entouré par certains musiciens qui jouaient en général des instruments bassi. Ça veut dire des instruments à plectre.
Pas l'alta cappella.
Pas l'alta cappella. Il n'avait pas à son service de joueur d'alta cappella. Et il demandait pour faire ses danses, parce qu'elle était une très très bonne danseuse, donc pour étudier, pour pratiquer les danses, elle demandait Rizzardetto Tamburino, quelquefois, qu'il était à la cour de Ippolito d'Este, et donc il lui prêtait et elle le payait pour lui faire pratiquer les danses. Mais sinon, en général, elle avait à sa cour deux luthistes. Niccolò da Padova, probablement il était luthiste, Tromboncino il était luthiste, et d'autres musiciens qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils jouaient, mais on est sûr qu'ils ne jouaient pas des instruments alti. Et il n'avait probablement pas à sa cour quelqu'un qui jouait une espèce de clavicin, spinetta, choses comme ça. Par contre, il était à la cour d'Isabella d'Este.
Alors on va voir justement la rivalité aussi. Parce que là, on en est au deuxième mariage. Il y en a un troisième mariage, bien sûr, avec par alliance, justement, qui sortent dans la même famille d'Isabelle d'Este, mais qui est la grande rivale, parce que c'est le summum du raffinement en Italie. Alors, on vous écoute justement dans Aimé Sospiri. Vous êtes avec nous dans le studio 118 et cette fois-ci, Gabriel, je crois, passe au psalterion. C'est à vous.
Thank you.
ici dans le studio 118, Aimé Sospiri par vous, l'ensemble Medusa avec Patricia Bovi, Crawford Young, Léa Stuttart et Gabriele Miracle qui était cette fois-ci au Psalterion. Alors ce qui est intéressant dans ces allers-retours entre musique vocale et musique instrumentale, c'est qu'on trouve des formes de frottol, donc cette musique mi-savante, mi-humaniste et mi-populaire. On retrouve donc des frottols au départ vocales dans des formes instrumentales. Voici un exemple pour qu'on sorte de flûte. Nasce l'aspro, une frottole, cette fois-ci instrumentale, de Francesco Danna, interprétée par l'ensemble Dulce Mémoire. Alors il y a une autre forme que la frottole qu'on retrouve dans un très très beau disque de vous, de l'ensemble Micrologus, Patricia Bovi, que je réécoute très souvent, qui s'appelle Napoli Aragonesi,
avec l'ensemble Micrologus.
Micrologus, sur ce répertoire de musique profane à la cour de Naples, donc Naples l'Aragonaise, hein, encore une fois,
au
Royaume d'Espagne.
C'est la même cour d'où venait Alfonso d'Aragona.
Donc exactement.
C'est le mari de... Et d'où venait la mère de Alfonso d'Este.
Eh oui.
Donc, on est assez connectés.
Alfonso Magnani, mais alors, et c'est une des plus grandes chapelles d'Italie. On compte énormément de musiciens espagnols, une quarantaine. Et alors, on va écouter justement un stromboto. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stromboto par rapport à...
C'est une forme poétique à ottava rima. Donc, c'est à huitaine de 11 syllabes.
11 syllabes.
Chaque.
Avec
les syllabes. Et ça, c'est pour moi un des exemples de...
Ce qui est un petit peu avant,
La frottole.
Ouais. Voilà.
Mais c'est déjà quelque chose qui lui ressemble beaucoup.
Thank you.
cor mio voluntorioso, c'est un stromboto de la cour de Naples, Naples l'Aragonaise, à la fin du XVe siècle, interprété par vous, Patricia Bovi, et l'ensemble Micrologus. Donc stromboto, la forme qui précède un tout petit peu la frottole. Alors là, on arrive dans le dernier tiers de la vie de Lucrezia Borgia, parce que c'est pas fini, qui se marie une troisième fois.
Absolument. Patricia. Elle décide de se marier parce qu'elle prend en main, d'une certaine manière, la décision de choisir avec qui. Bon, ce n'était pas trop facile. Mais finalement, elle décide qu'entre les différents candidats qui lui sont proposés, elle décide que Ferrara, c'était la cour qu'elle voulait finalement.
Cour magique, mythique.
Oui, parce que c'était une famille d'ancienne noblesse, etc. Mais les gens de Ferrara, les Est, ils n'étaient pas du tout contents de cette possible alliance. Parce que les Borgia, ils n'étaient pas bien vus. Mais finalement, il fait tout ce qui est dans son pouvoir pour réussir. Et donc, la dot qu'il va apporter à Ferrara, c'est une dot énorme. Absolument. Elle a réussi à faire avoir des bénéfices à la famille de Yeste, à faire nommer des cardinaux.
Mais du coup, Rome annexe un petit peu cette cour de Ferrara dans son giron, dans son...
Absolument,
c'est ça qui est très fort.
Oui, c'est très, très, important. Très important. Donc, mais le prix à payer, c'est qu'elle doit abandonner son fils. Parce qu'elle ne pouvait pas partir à Ferrara avec le fils d'un précédent mariage. Donc elle part avec toute sa cour. Il y a un long voyage de presque un mois. Et là, elle rentre à Ferrara le 2 février 1502.
Est-ce que vous auriez aimé être une femme à cette époque-là?
Absolument non.
Parce que c'est vrai qu'en préparant l'émission, on se disait époque absolument génialissime pour nous aujourd'hui. C'est extrêmement dense, riche, il se passe plein de choses.
Mais non. La vie de femme, c'était dur. Mais là, c'était la vie d'une femme de pouvoir, quand même.
Femme de pouvoir, parce qu'on va voir aussi qu'il y a Isabelle d'Este. Alors, il y a deux figures très importantes pour cette partie de sa vie à Lucrezia Borgia, c'est Tromboncino.
Oui, c'est un musicien.
Et Pietro Bembo.
Pietro Bembo. Alors, Tromboncino avant tout, parce que c'était le musicien qui était avant à la cour d'Isabella d'Este, au service d'Isabella d'Este, et qu'à un certain moment, il passe à Ferrara, chez Lucrezia.
En 1511.
Et à ce moment-là, il compose probablement au moins plusieurs choses, plusieurs frottole, mais deux en particulier avec un texte double langue. Donc un texte italien, un texte espagnol. Donc le musicologue hypothèse que ça, c'était à cause de Lucrezia qu'il a composé avec ces doubles langues. Et oui, pour nous, c'est assez logique tout ça. Et puis, cette frottola, Mucho son que van perdidos, décrit aussi, selon moi, ça c'était un point de vue très personnel, l'amour qu'elle a eu pour Pietro Bembo. Donc cette relation...
Alors, en deux mots, voilà, relation épistolaire, mais pas que.
Pas seulement épistolaire. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Donc, bien sûr, on sait pas, je ne vais pas aller trop loin sur ça, mais c'est... En lisant les lettres, ce n'est pas du tout de l'amour platonique.
Alors, en face de moi, il y a Léa Stuttart qui joue depuis le début de l'émission une harpe. Vous avez entendu le son. Alors, Léa, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que l'on sait de la harpe gothique, de la fin du Moyen-Âge, et surtout de ce que l'on entend, c'est-à-dire ces petits mirlitons, ces petits harpions qui font grésiller la corde. Qu'est-ce qu'on a comme information à ce sujet-là?
Oui, il y a plusieurs témoins, même si maintenant le son nous semble peut-être un peu bizarre. On n'est pas du tout habitué à ça maintenant dans la musique ancienne ni la musique classique, même si en Éthiopie, en Inde,
on a toujours
le goût pour ce grésillement.
On peut l'entendre, Léa le...
Bien sûr.
C'est vrai qu'il y a des très beaux disques de harpe éthiopienne, de harpe du roi David.
Résonne beaucoup. Les harpions sont des petits morceaux de bois au fond de chaque corde et en les réglant, tu peux avoir que la corde vibre contre, mais c'est pas
contre
stoppé, ça touche pas et ça fait un effet de rebattement et genre un auréole de harmonique. C'est pas tout à fait plus de volume, mais ça fait vraiment un peu percussion même. Dans un ensemble.
Mais c'est étonnant parce que c'est vrai que ça pose pas mal de questions sur l'interprétation, sur cette idée de son pur. Et je crois que l'interprétation même des polyphonies franco-flamandes, Josquin, Isaac, tout ça, a renforcé cette idée que l'émission du son à cette époque-là devait être pure. On a des sons de harpe extrêmement pur. Il y a une idée de pureté là-dedans.
Oui.
Et c'est vrai que c'est Harpion, en salissant un petit peu le son, le color, mais change complètement notre manière d'entendre la musique.
Et c'était vraiment le son typique pendant tout le 15e siècle et même pendant plusieurs siècles après. Il y a le tractat moitié du 15e qui dit que la harpe poussait son son, projetait plus, sauf un instrument à orgue ou une trompette. Donc c'était presque si fort comme une trompette. On ne pense vraiment pas comme ça maintenant.
C'est intéressant. Hein.
Oui. Et c'était aussi un boulot pour un professionnel, même juste régler ces petits harpillons.
Bah oui, ça prend du
temps. Parce qu'il y a un témoin qui dit quelqu'un qui a fait un petit livret de compte et il a payé. Et pas mal, il a payé cher pour son prof, le maître. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un le fait pour moi.
Mais combien vous seriez prête à payer aussi?
Bon, ça, on discute.
Bon, on s'arrange après. D'accord. Bah, merci beaucoup, Léa Stetarf, pour ces explications. Alors, Tromoncino, donc on va entendre ici une version. Alors, très important de... Queste non sono più lacrime. Donc en premier, donc muchos son que
van perdidos.
Zapailo campo.
Oui, c'est comme une danse. De bien toujours d'un manuscrit qui est lié à la cour aragonaise, mais c'est donc c'est sa mémoire de la musique espagnole, parce qu'on sait que Lucrezia est partie de Rome en apportant un livre de musique des chansons espagnoles. Donc c'est un peu comme ses souvenirs de son passé, de sa formation musicale. Et après, on continue, on enchaîne avec...
Avec Queste non sono più lacrime. Alors, très important parce que...
C'est le premier texte d'Ariosto qui a été mis en musique par Tromboncino.
Donc de l'Orlando Furioso.
Exacto.
Donc écrit, je crois, tout début du XVIe siècle, 1505, à la cour de
Ferrara. À la cour et donc, Ariosto, il était là. Et donc, probablement, il s'est rencontré avec Tromboncino. Pour nous, c'est très important, ce témoignage. En plus, c'est un très beau morceau. Donc,
Eh bien oui, alors, on vous écoute l'ensemble Medusa, donc Muchos son que van perdidos, enchaîné à cette danse instrumentale Zapailo Campo, et ce Queste non sono più lacrime. C'est à vous.
Muchos son que van perdidos, e yo también, sin osar decir de quién, sin osar decir de quién. Molti sono lieti amanti, cognor stanno in festa e canti, altri ancor vivon de pianti, e io tambien sin osar desir de quien, sin osar desir de quien. Muchos son que van perdidos, e io tambien sin osar desir de quien. Sin osar desir de quien. Molti sono
Ensemble Medusa avec Patrizia Bovi, Crawford Young, Léa Stuttart et Gabriel Miracle. Un grand merci à vous. Dans ces trois pièces enchaînées, Muchos son que van perdidos, enchaînées à cette danse Zappa et Locampo, toujours l'héritage espagnol,
ouais,
à court de Ferrare encore. Et puis cette pièce de Tromboncino qui servait donc Lucrezia Borgia. Queste non sono più lacrime, qui est la première mise en musique 1517, donc publication en tout cas, de l'Orlando Furioso de Larios. Donc très important, d'où la question quand même, aujourd'hui, Patrizia Bovi, quand on réinterprète finalement ce répertoire de Frottol, on se pose quel genre de questions en termes d'improvisation, technique, d'accompagnement, de quoi on s'inspire?
Bon, par exemple, pour la poésie chantée et pour le travail que nous avons fait sur les octaves pour raconter la vie de Lucrèce, donc selon cette tradition de chanter la poésie épique, de chanter, raconter l'histoire d'un personnage public, comme si ça se faisait à l'époque. Donc on a simplement refait pour Lucrèce ce qui se faisait normalement au XVe siècle, au XVIe siècle. Et il y avait une technique spéciale pour faire ça. Donc c'était une technique qui laissait à côté la musique figurata, donc ça veut dire la musique mesurée. Mmh. Mais on utilisait une autre technique. On utilisait le texte devenait plus important de la musique. Et c'est vraiment le début du recitar cantando.
Exactement, mais nous
fait
sommes
dans une
100
autre...
Cent ans avant, quoi.
Oui, mais incroyable. Je ne veux pas dire que c'était la même chose, mais ça vient de ce besoin d'interpréter le texte d'une manière prioritaire.
Il y a des témoignages, hein, de l'époque.
Absolument.
Heureusement,
si, si.
Parce que les polyphonies franco-flamandes, ça, on ne comprend rien.
Il y a, par exemple, Vincenzo Calmeta, qui était le biographe de Serafina Aquilano, qui dit qu'il fallait oublier le signe de la musique mesurée pour bien chanter la poésie. Et donc, être complètement libre. La musique, à ce moment-là, la musique devrait suivre comme on suit le maître, tu vois. Les servants vont
prima
suivre.
Prima la parole.
Exact. Donc, il y avait une grande contraste, mais c'était en même temps que ça se passait. Donc,
oui, c'est
très intéressant.
Incroyable. Bah, époque de passage, mais alors, du coup, tradition orale, ça vous inspire?
Absolument, parce qu'encore aujourd'hui, l'Ariosto, il est chanté, comme dans la fameuse Jérusalem délivrée, de Tasse, etc.
Oui.
Mais encore aujourd'hui, il y a tout ça qui est chanté dans une tradition orale, notamment en Italie, notamment en Toscane. Et on a des chanteurs, des poètes, improvisateurs, et qui n'improvisent pas, mais qui chantent sur des mélodies qui sont là depuis des siècles, encore les octaves. Et donc là, on a un exemple de chanteur traditionnel de Buti, en Toscane, qui chante « Le combattimento di Tancredi Argante » de Torquato Tasso, donc de la Jérusalem délivrée.
Et si corpo Tancredi agile et sciorto, et di man velocissimo, et di piede, sovrasta lui col grande capo e molto di grossessa di membra, succede? Girar Tancredi in chino, in serraporto, per avvintarsi e sottentrà si vede, e con la spada sua, la spada trova, nemica in disviarla, usami prova. Ma disteso ed eretto il ferro arrogante dimostra arte simile, atto diverso. Quant'egli può, va con il gran braccio innante e cerca il ferro no, ma il corpo avverso. Quel tenta aditi nuovi in ogni istante, questi li al ferro al bordo ogni or converso, minaccia e intento a proibirgli stassi furtive entrate e subiti trapassi.
Les poètes toscans de Bouty récitant, c'est un petit peu réducteur, chantant,
ouais.
cette Jérusalem délivrée.
Ouais.
Alors, c'est absolument incroyable parce que c'est les choses qu'on retrouve aussi dans le cadre de joutes poétiques, gara di poesia, en Sardaigne, que connaît bien Maria Manca.
Et encore, c'est Camerisponde.
Et c'est tout le pouvoir de la rime aussi.
Absolument.
Et cela, et vous me disiez, Patricia, cela, c'est même critiqué pour l'Arioste, en tout cas.
Alors, Arioste, on sait qu'à l'époque d'Arioste, il y avait une critique très forte, parce que paraît-il que sa poésie était chantée dans les tavernes, sur la cetra, sur la
tchète et la Corse.
oui, il y a quelques liens de similitude.
Oh, il y a toujours des Corses quelque part.
Non, mais là, il faut faire une émission à part sur ça.
Sur la tchète, là.
C'était sur la tchète, là, si, dans les tavernes et dans les barbiers. Dans les barbiers.
Barbiers coiffeurs.
Oui, dès l'époque. Et alors, il y a un témoignage de Giovanni Bardi dell'Accademia degli Alterati à Florence qui vient en défense de l'Arioste en disant, ça c'est en 1583, en disant que c'était bien, c'est une belle chose que Arioste soit chanté dans le. Ça veut dire qu'il est proche de
du peuple, proche des gens.
Oui. C'est comme Homère, que lui aussi il était chanté, il était connu par vraiment le peuple, donc c'était quelque chose d'important, c'était pas une critique selon lui, c'était une chose pas à critiquer.
Mais alors, Patrizia Bovi, du coup, pour revenir à notre Lucrezia Borgia, en épousant Alphonse d'Este, duc de Ferrare,
oui,
elle se retrouve dans la famille des Ferrare, donc dans la famille d'Isabelle d'Este
à Mantoue, ouais, parce que Isabelle était la sœur du mari de Lucrezia, donc on sait que Isabelle elle était très préoccupée de l'arrivée de Lucrezia à Ferrare. Parce que Lucrezia notamment était une très très belle femme, était une femme très élégante, était une danseuse extraordinaire. Et toutes les lettres qui se sont échangées témoignent ça. Alors elle envoie un de ses agents espions.
Espion,
qui s'appelait De Prosperi.
qui va prospecter.
il prête. Qui lui envoie des lettres en disant « Ah oui,
des rapports.
Lucrezia, elle était habillée comme ça, elle avait certains joyaux, toutes les descriptions très précises, donc on sait qu'elle avait des choses magnifiques. » Et puis, il peut pas, il était de la partie d'Isabelle, mais il pouvait pas ne reconnaître le fait que Lucrezia, elle était très élégante et très très bonne danseuse. Donc, même avec, en disant « Mais vous êtes toujours mieux, vous êtes toujours la plus belle, la plus intelligente, etc. »
Dis-moi qui est la plus belle.
Mais elle ne pouvait même pas mentir complètement. Alors, Isabelle, elle était nue au courant, avant que Lucrezia arrive à Ferrara pour la célébration officielle du mariage. Et donc, quand elle part de Mantoue pour aller au mariage de son frère, elle apporte tout. Tous les instruments, les meilleurs habits, les plus beaux habits, tout ce qu'elle avait. Et finalement, il y a aussi, très intéressant, parce qu'il y a les lettres qu'elle écrit à son mari. Le mariage de Lucrezia a duré une semaine. Donc pendant les fêtes, elle écrivait à son mari, il n'était pas présent. Et en disant, mais c'est un désastre, ils ont fait une comédie, ils ont représenté une comédie, mais c'était très ennuyeuse. Et puis ça, en critiquant tout. En même temps, il y avait un noble homme de Rome qui l'a écrit à lui des lettres en disant « Ah, on a rencontré cette Isabella d'Este, mais elle était mal vêtue, elle se portait très mal, elle s'est donné de l'air et elle avait l'attitude comme un homme. » Ça veut dire qu'elle était très
viril.
Très viril dans son...
Ah, c'est étonnant.
Et on sait que pendant une des journées que Lucrezia, elle était disparue pour se laver ses fameux cheveux, parce qu'elle passait une journée à se laver les cheveux, parce que probablement les fameux cheveux qu'on trouve encore dans une exposition qui a été récemment faite en Italie sur Pietro Bembo. Donc, il y a ces cheveux blonds magnifiques. Et probablement, il mettait des choses pour rendre plus brillant la couleur. Et donc, pendant que Lucrezia elle n'était pas présente, Isabelle, elle se met à chanter, jouer du luth et de montrer comment elle était une virtueuse.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce que vous décrivez, la musique touche bien sûr aux politiques, mais touche aussi à l'art du comportement, parce que Baldassare Castiglione, l'art du courtisan et libre del cortigiano, c'était un confident d'Isabelle d'Este.
Absolument. Et lui, ils disent que les femmes ne sont pas, elles doivent pas jouer des instruments alti.
Ils
doivent que jouer des instruments de lutte.
Donc accord, accord pincé, corde frottée. Leonardo da Vinci, lui aussi, s'arrêtait à la cour de Mantoue pour peindre le portrait d'Isabelle. Mais alors, du coup, cette histoire de rivalité.
Oh, parce qu'il y avait une rivalité, bien sûr, parce qu'Isabelle, elle était jalouse de Lucrezia, de sa beauté, et aussi, probablement, d'une histoire d'amitié qu'il y avait entre Lucrezia et Francesco.
Di Gonzaga, son mari, enfin, d'amitié plus, quoi.
Plus.
Alors, du coup, on va vous écouter pour refermer ce matin des musiciens, Patrizia Bovi, avec les membres de l'ensemble Medusa, dans quelque chose que vous connaissez bien, c'est Scaramella Valaguera, de Josquin des Prés, du coup, c'est la version de Josquin.
Ouais. C'est une version après qui a été élaborée par Crawford, parce que bien sûr, nous avons utilisé cette technique d'intervenir sur les frottes, sur les choses, en les mettant dans l'effectif que nous avons, qui c'était apparemment l'effectif qu'elle probablement elle avait à sa cour. Donc,
c'est une frottole donc, de Josquin en italien. C'est un peu l'équivalent de Malbrook s'en va en guerre. Scaramella va la guerre. Hein. Avec un texte un petit peu étrange, d'ailleurs. Alors, Patrizia Bovi, merci beaucoup d'être venue au Matin des Musiciens.
C'était un vrai
plaisir. Partagé. Merci à vous, Léa Stuttart.
Merci
beaucoup. Crawford Young, un grand merci à vous pour ces explications. Et puis, Gabriele Miracle, qui était au psalterion et aux percussions. Un grand merci à vous, l'ensemble Medusa. Et maintenant, Scaramella va à la guerre.
Scaramella va alla guerra con la lancia e la rotella alla sombrero moro morombeta la sombrero moro morombo Scaramella va alla galla con la scarpa e la stiva la sombrero moro morombeta la sombrero La sombrero moro.
Et voilà, dans le studio 118, pour refermer ce matin, des musiciens, l'ensemble Medusa, Patricia Bovi, Crawford Young, Léa Stuttart et Gabriele Miracle dans ce Scaramella va à la guerra de Josquin Després, sublime Frotol. Merci encore à eux. Je vous rappelle que le disque consacré à Lucrezia Borgia est sorti. Pas forcément facile de le trouver en France. Mais enfin, on vous donne tous les renseignements, bien sûr, si vous nous envoyez un petit mail. Cette émission a été réalisée par Claire Lagarde, préparée avec l'aide de Xavier Carrère, avec aujourd'hui la prise de son et au mixage, Manuel Couturier, assisté de Déborah Dagobert. La semaine prochaine, nous continuons notre exploration de la musique ancienne avec ses clés livrées par les musiciens. Ce seront les musiciens de l'ensemble Les Cyclopes. Ils sont deux, Bibiane Lapointe et Thierry Madère, pour un sujet absolument passionnant. Répertoire pour deux clavecins et plus, si affinité, des fils de Jean-Sébastien Bach et notamment Wilhelm Friedemann Bach. Ce sera donc lundi prochain. À 11h, vous pouvez bien sûr podcaster cette émission pendant un mois, profitez-en et la réécoutez tranquillement. Vive la musique, vive les musiciens, très bon début de semaine à l'écoute de France Musique. Ciao, bye bye.